Europe 1.
16h-18h,
historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Savez-vous, Mathieu, ce qui s'est passé le 22 novembre 1787 ?
Non, mais ça, ce qu'on entend en revanche derrière, c'est Beethoven, le concerto numéro 5 pour piano, dit l'Empereur.
Pas mal.
Et ça, ça vous épate, c'est pas écrit sur la fiche. Hein. Je tiens à préciser pour une fois que je sais quelque chose.
Je reviens à mon 22 novembre 1787. C'est la date de la première conquête de Napoléon. Ah. Pas sur le plan militaire. Ce jour-là, celui qui deviendra empereur des Français en 1804 découvre les plaisirs de la chair avec une fille de joie nommée Mademoiselle Deschamps, qu'il a rencontrée par hasard dans les jardins du Palais Royal, comme il le consigne lui-même dans son journal intime. Un coup d'un soir pour le jeune pour le jeune sous-lieutenant corse de 18 ans qui est loin d'être un séducteur, maigre, petit, le teint jaunâtre. Il n'a pas grand succès auprès des filles. Hein. Et c'est d'autant plus frustrant que l'ambiance post-terreur qui va suivre la chute de Robespierre en 1794 apporte un regain de libido chez les Français. Les rencontres de passage se banalisent dans toutes les couches sociales, la moralisation laisse place au libertinage. En 1795, Bonaparte se fiance avec Désirée Clary, la belle-sœur de son frère Joseph. Mais le mariage tombe à l'eau car, tandis que la famille met du temps à donner sa réponse, le jeune Corse parvient enfin à mettre des femmes dans son lit. Après avoir maté les rebelles, je parle des rebelles du 13 Vendémiaire, 5 octobre 1795, Napoléon est devenu général en chef de l'armée de l'intérieur. Quelques jours plus tard, il rencontre un certain Eugène de Beauharnais venu lui demander une faveur. Comme il accepte, Rose, la mère du jeune homme, vient le remercier. Et là...
C'est le drame.
C'est le coup de foudre, Mathieu. Avec celle qu'il appellera Joséphine de Beauharnais. Cheveux châtain blond, pommade, voix suave, la charmante, surnommée Yéyette dans sa jeunesse, fait tourner la tête du général. C'est une jolie créole de 32 ans. Elle est la veuve du vicomte Alexandre de Beauharnais, victime de la Révolution, avec qui elle a eu deux enfants, Eugène donc, celui qui demande une faveur pour sa mère, et Hortense. Son savoir-faire au lit, je parle de Joséphine, est légendaire. Et ce n'est pas le ténor de la convention et du directoire, son ancien amant, Paul Barras, qui pourra prétendre le contraire. Le mariage entre Napoléon et Joséphine est célébré en mars 1796. Ils ont tous les deux 28 ans sur les registres. En fait, Joséphine, je vous dis la vérité, elle s'est rajeunie de 4 ans. Napoléon, lui, s'est vieilli de 2 ans. Et le clan Bonaparte est en rogne de ne pas avoir été consulté. Après ces noces expéditives, pas de lune de miel à l'horizon. 3 jours après, Napoléon gagne Nice pour y prendre le commandement de l'armée d'Italie que lui a confié justement Barras. Pauvre Joséphine. On l'imagine pleurer toutes les larmes de son corps. Pas du tout. Sitôt son jeune mari parti, Joséphine de Beauharnais trouve agréable la compagnie d'Hippolyte Charles, 24 ans. Elle s'amourache farouchement de ce jeune lieutenant, pas si beau, un peu enveloppé, mais qui a des points pour lui. Il a un humour ravageur. Napoléon la supplie de le rejoindre à Milan, car de son côté, il est dévoré par la passion. Pas un jour ne passe sans qu'il écrive à Joséphine, qu'elle ne réponde très peu à ses missives enflammées. Et quand elle le fait, c'est pour sortir excuse sur excuse. Elle va jusqu'à lui faire croire qu'elle est enceinte de lui. Enfin, vous savez, au bout d'un moment, le stock d'excuses est vite épuisé. Les victoires de Napoléon s'enchaînent et il veut ce qu'il appelle son repos du guerrier. Alors Joséphine accepte de lui rendre visite. Mais c'est avec Hippolyte Charles qu'elle se rend à Milan. Elle passe d'une couche à l'autre. Avec Hippolyte, elle prend du bon temps, elle vit sa passion, mais quand elle est avec Napoléon, c'est plutôt du genre expéditif. On raconte qu'il ne passait que quelques minutes dans la chambre à coucher. Bien que tout cela se passe sous son nez, Napoléon refuse de croire aux rumeurs d'infidélité de sa femme. À Paris, tout le monde est au courant. Lui, il a du mal à se résigner à la vérité. Alors après une première alerte à Milan, c'est finalement à Paris qu'il apprend, qu'il découvre le poteau rose en ouvrant une lettre adressée à Joséphine. Et le comble, c'est que ce courrier, qui dévoile donc l'existence de l'amant Hippolyte Charles, est écrit par celui qui n'est autre que l'ancien amant du temps révolutionnaire devenu confident, Barras. Et cette fois, oui, c'est le drame. Joséphine nie en bloc. Perfide, elle accuse même Napoléon en retour pour noyer le poisson. Mais la femme infidèle n'aurait pas dû congédier sa femme de chambre. Voilà le problème.
Aïe, aïe, aïe.
Louise Compoint. Parce que vexée, elle s'empresse de tout raconter au mari trompé. Et le frère de Napoléon, Joseph Bonaparte, confirme la rumeur, n'hésitant pas à traiter sa belle-sœur de traînée, putain, gourgandine de bas étage. Bonaparte explose de rage. Mais devant sa belle aux yeux humides, il craque et voilà, il la reprend. S'il part en campagne en Égypte en 1798, c'est avec la promesse qu'elle l'y rejoindra. Mais Joséphine ne vient pas. Elle profite encore d'Hippolyte Charles. Quand ses proches la mettent en garde, elle fait la sourde oreille. Elle sait l'emprise qu'elle a sur son mari. Mais Bonaparte est obsédé par l'image de sa femme dans d'autres lits. Alors il fait pareil, avec une petite modiste de Carcassonne, Marguerite Pauline.
Voilà, je vous l'avais dit, ça devient les Feux de l'amour.
Tout à fait. Et dans le prochain épisode des Feux de l'amour, vous verrez Napoléon renverser un verre d'eau glacée sur Marguerite Pauline, juste pour voir la prendre à l'écart, loin des regards. Ça, c'est véridique, cette histoire. Quand le général Bonaparte rentre en France, sa famille lui apprend qu'il est la risée de Paris. Foudrage, il se laisse berner une nouvelle fois par l'espiègle de Joséphine. Sauf qu'en 1804, Bonaparte devient Napoléon Ier, l'empereur des Français, et il lui faut un héritier. Les parties de jambes en l'air avec Joséphine ne donnent rien, alors le divorce est prononcé en 1809. Et c'est Marie-Louise d'Autriche qui devient alors la nouvelle impératrice des Français le 2 avril 1810. J'aime autant vous dire que le climat n'est pas propice aux tourtereaux parce que Napoléon est exilé sur l'île d'Elbe. Marie-Louise d'Autriche est retenue prisonnière par son père, ennemi de son mari. Je parle de l'empereur d'Autriche, hein, évidemment. C'est alors qu'elle est séduite par le comte Adam Albert de Neipperg, chargé de la surveiller. Pauvre Napoléon, deux fois marié, deux fois cocufié. Et Neipperg, c'est pas vraiment le plus sexy, d'ailleurs. Il est borgne. L'adultère n'est pas un phénomène, c'est une affaire de canapé, disait Napoléon. Eh bien, ces deux femmes étaient très portées sur le canapé. Mais à la fin, l'amour triomphe toujours.
Quand même.
Napoléon n'a pas dénigré Marie-Louise d'Autriche et a même voulu lui donner son cœur, littéralement. Eh oui, parce qu'avant de mourir depuis l'île de Sainte-Hélène où il est exilé, il demande à ce que son cœur soit donné à Marie-Louise. Un acte si romantique que lui refuse son geôlier. Quelques mois après la mort de celui qui avait choisi l'aigle comme emblème, l'aigle impérial, toujours au féminin, mais qui avait surtout les cornes d'un cerf, Marie-Louise et son amant ont enfin pu se dire oui.